Chers amis, nous allons lire un texte lu à plusieurs reprises depuis vendredi soir dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons intendants économes des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire, c'est la vérité. On peut s'appuyer sur ces paroles. Elles sont vraies. Nous avons considéré vendredi soir l'Église locale dans son importance capitale pour tout enfant de Dieu. Nous l'avons considérée comme une communauté en Christ, centrée dans la vie de chacun de ses membres, centré sur cette relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Hier après-midi, nous avons commencé à développer quelques principes fondamentaux dans l'approche de ce thème de l'exercice des dons spirituels. Et nous avons essentiellement souligné, tout d'abord, que chacun d'entre nous, à partir du moment où il était intégré au corps de Christ par la nouvelle naissance, était impliqué, était engagé dans son processus de croissance. Chacun a reçu souverainement, comme nous allons le voir, de la part de Dieu et par le ministère du Saint-Esprit, au moins un don. On ne peut pas être membre du corps de Christ sans avoir reçu au moins un don à mettre au service de Dieu et au service des autres. Nous avons souligné également hier soir, oui en partie, que la liste d'une vingtaine de dons énumérés dans les grands textes, quatre grands textes du Nouveau Testament, était une liste non exhaustive, c'est-à-dire non complète, mais une liste indicative, représentative de l'infinie variété des cadeaux de Dieu à son corps pour le témoignage. Et enfin, vous vous souvenez, hier soir, nous avions, comme le disait quelqu'un du biftec, du solide, hein, puisque nous nous sommes penchés sur la place du fruit de l'esprit dans l'exercice des dons, et vous vous souvenez de tous ces jeux de mots à partir du terme charis, la grâce, les charismes qui sont les capacités d'exprimer la beauté de Dieu, d'exprimer la générosité de Dieu, des canalisations de l'amour de Dieu qui ainsi va vers les autres sans anarchie, sous la domination du Saint-Esprit. Nous avons vu le terme kara, un exercice des dons dans l'amour, produit la joie, la reconnaissance, eucharistéo. Et puis enfin, nous avons souligné qu'il était inutile de vouloir exercer des charismes dans l'église locale si nous n'étions pas prêts à exercer la grâce, c'est-à-dire à manifester un esprit de pardon à l'endroit des autres. Charizomai, exercer la grâce. C'était là la dominante de notre réflexion d'hier soir et c'était là la note aussi de l'introduction tout à l'heure de ce culte. Nous allons donc prendre un moment maintenant pour voir, sans pouvoir bien entendu tout développer, nous verrons quelques lignes essentielles aussi, mais nous voulons nous pencher sur le discernement et la pratique des charismes, c'est-à-dire comment discerner quel est ou quels sont les dons que le Seigneur m'a confiés pour que je les fasse fructifier, que je les mette au service de son corps qui est l'Église et aussi en vue du salut qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Comment discerner et puis comment pratiquer, nous en dirons quelques mots. J'irai assez vite pour certains aspects, de manière à pouvoir m'arrêter davantage sur d'autres aspects qui me semblent absolument importants, essentiels. Faut-il le dire, il importe d'abord que nous ayons un minimum de connaissance de la parole de Dieu et de confiance dans la parole de Dieu pour pouvoir discerner nos dons. Il est évident que si dans l'église locale, on ne donne aucun enseignement sur la question, on ne favorise pas la découverte, l'éclosion, le développement, l'épanouissement des dons de service. Et c'est peut-être là un des problèmes des églises évangéliques pendant trop longtemps qui ont été tentées d'occulter, de laisser complètement de côté ce sujet, qui avait un peu peur d'y toucher. Et ce silence coupable a favorisé des excès inverses. Et vous savez que c'est toujours le cas. Taisez une vérité dans l'église, vous la verrez complètement déformée et exagérée dans certains excès. Donc nous devons absolument veiller, comme l'apôtre Paul le disait, aux anciens de l'église d'Éphèse, dans son discours d'adieu à Milet, le port d'Éphèse, à quelques kilomètres de là, j'ai pris soin de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Il faut que nous touchions même à des sujets qui nous semblent peut-être quelque peu difficiles à aborder. Connaître tant soit peu ce que dit la parole, faire confiance au Seigneur qui parle, et bien entendu, obéir à la parole de Dieu. Vous savez que nous l'avons lu hier dans Romains au chapitre 12, dans le premier des quatre textes fondamentaux qui évoquent l'exercice des dons, l'introduction à ce passage, c'est « Je vous exhorte, je vous encourage, je vous supplie même, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. » Il n'est pas possible d'exercer des dons dans l'église locale s'il n'y a pas d'abord de notre part une véritable consécration. Dieu nous demande de tout mettre sur l'autel. Jésus-Christ veut être Seigneur de ma vie. Et comment est-ce que je pourrais mettre quelque aspect de ma personne au service de l'Église de Jésus-Christ, au service de l'homme perdu pour qu'il soit sauvé, si je ne me suis pas mis d'abord, par amour pour le Seigneur et parce qu'il m'a aimé avant tout, entièrement sur l'autel. Cela est absolument fondamental. Mes amis, s'il y avait dans nos églises une véritable consécration, eh bien je dirais d'une certaine manière que même sans connaître beaucoup de choses sur le sujet des dons spirituels, beaucoup pratiqueraient des dons spirituels, je dirais, sans le savoir. Vous savez, nous faisons de la prose sans le savoir, nous faisons un tas de choses sans le savoir, nous faisons du grec et du latin sans le savoir, et nous pouvons pratiquer des dons spirituels sans le savoir. Dans la mesure où il y a dans notre vie une véritable consécration, vous pouvez être consacré, je dirais en étant illettré, si vous êtes consacré au Seigneur, le Seigneur va vous utiliser. Et c'est peut-être après coup, des années plus tard, que vous allez un jour réaliser par l'enseignement des Écritures que vous avez exercé tel ou tel don sur la base simplement de votre consécration. Voilà un premier point qui est très important. Le deuxième point très important se trouve notamment, nous l'avons lu hier, dans 1 Corinthiens 12, 31, 1 Corinthiens chapitre 12, 31, lorsqu'il est dit « aspirer aux dons les meilleurs », nous allons revenir sur cette expression, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Au début du chapitre 14, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La deuxième condition du discernement et d'une bonne pratique des dons, c'est que nous réalisions, vous et moi, que nous ne sommes pas en présence d'un petit luxe, d'une cerise sur le dessert, mais véritablement d'ordre de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, ce n'est pas fait pour les missionnaires, pour ceux qui ont un ministère pastoral, pour les évangélistes à plein temps, etc. Non, pas du tout. Le texte ne donne ici, ne fait ici aucune distinction. C'est un impératif. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est rien de facultatif. C'est une nécessité absolue, vitale. Je dirais jusqu'à un certain point que nous n'avons pas le droit de nous tenir en repos si nous ne sommes pas engagés dans l'église locale autrement que par une simple présence le dimanche matin au culte. Nous devrions vraiment nous poser la question, mais Seigneur, que veux-tu de moi? Et j'ai parlé hier, et certains pourront l'écouter sur cassette, même de ce ministère extraordinaire que Dieu confie aux personnes du troisième âge et au-delà, n'est-ce pas? Dieu confie, tant que nous sommes sur la terre, au sein de son corps, tant que nous avons encore des capacités, quelle qu'elle soit, il nous confie une tâche différente pour les uns et pour les autres, parce que Dieu, dans son amour, tient effectivement compte de nos différences à chacun selon sa capacité. Nous avons lu ce texte dans Matthieu 25. Donc aussi, à chacun selon son âge, à chacun selon ses possibilités. Il ne s'agit pas de se complexer parce que nous ne sommes plus capables de courir les rues comme un cabri pour distribuer des traités, n'est-ce pas? Mais chacun d'entre nous, tant que nous sommes sur la terre, tant que Dieu nous donne encore un minimum de capacité, nous pouvons le mettre à son service et rester profondément utile au service du Seigneur. Dieu entend nos petites prières, même dans un souffle rapide d'une santé difficile. Dieu entend notre prière. Dieu entend nos soupirs. Dieu entend nos cris. Même lorsque nous avons une capacité pulmonaire réduite, même lorsque nous avons de l'asthme, il entend. Alors souvenons-nous et ne laissons pas la puissance des ténèbres nous accabler en nous laissant croire dans son mensonge odieux que nous sommes sur terre des êtres inutiles. Personne n'est inutile dans le corps de Christ. Et j'irai même plus loin. Lorsque dans la famille des enfants de Dieu, un enfant de Dieu connaît de graves handicaps, même des handicaps dans le domaine mental, Lorsque même, disons-le, certains, dans leur vieillesse, peuvent connaître des temps très difficiles où une souffrance entoure leur situation personnelle, il reste un don de Dieu à l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il reste un moyen dont Dieu se sert pour parler à leurs frères et sœurs. Souvenons-nous toujours de cela. Cette manière odieuse actuelle qu'on a de vouloir parquer les personnes gênantes par leurs incapacités motrices ou autres, ces pensées qui se développent de plus en plus dans la fin des temps, comme quoi, à partir du moment où l'on n'est plus rentable sur le champ du travail, il vaudrait mieux être éliminé. Ces pensées ne doivent pas un seul instant pénétrer l'enfant de Dieu. Tant que je suis sur la terre, même au moment même où je serai incapable de prier moi-même, Dieu se sert encore de moi pour interpeller mon frère et ma sœur, pour leur rappeler leur fragilité, pour leur rappeler la grâce de Dieu dans leur vie, pour leur rappeler l'importance d'être dépendant de Dieu à tout instant, parce que nous ne savons pas ce que nous serons un jour si le Seigneur ne revient pas nous prendre très vite. Cela s'inscrit aussi dans ce fait d'être au service les uns des autres. Réalisons donc le caractère impératif de l'exercice des dons. Dans 1 Corinthiens 14, 36-37, l'apôtre Paul dit avec une certaine sévérité, parce qu'il y avait trop de désordre et de contestation dans cette église de Corinthe, 1 Corinthiens 14, 36-37, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul affirme au nom du Seigneur que l'enseignement qu'il est en train de donner sur les dons spirituels est un commandement du Seigneur. Ce ne sont pas des petites suggestions bien gentilles, c'est tout simplement un commandement de Dieu. Troisième remarque. Eh bien, il importe troisièmement de viser juste. Viser juste. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Vous avez une autre possibilité de traduction parce qu'il y a des manuscrits qui disent « au don supérieur ». Il semble toutefois que l'expression « meilleur » soit généralement préférée au don supérieur, mais un autre terme est présent dans certains manuscrits. Il faut en tenir compte, ce qui peut expliquer la différence dans certaines versions. Aspirer aux dons les meilleurs. Tout d'abord, aspirer ou chercher avec zèle. C'est un mot grec qui a donné en français le mot zèle. Ayez du zèle. Ce qui est curieux, c'est que l'apôtre Paul, généralement, quand il utilise ce terme, l'utilise de manière négative. À plusieurs reprises dans Corinthiens, d'ailleurs, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, dans Romains aussi, l'apôtre Paul va utiliser ce terme négativement pour évoquer l'envie, pour évoquer la jalousie. Et ici, curieusement, il l'utilise dans le sens positif. Comme pour dire, vous savez, l'amour ne jalouse pas. Et souvenez-vous, chrétiens de Corinthe, qu'il est très facile de passer du zèle à la jalousie. On peut très vite glisser de l'un à l'autre en enviant les dons que le Seigneur a faits à mon voisin. Vous connaissez l'adage, le proverbe, l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Seigneur, pourquoi tu lui as donné ce don? Pourquoi moi tu m'as si peu gâté? Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc il importe que nous ayons des motivations pures dans la prière. Non pas des motivations qui viennent de la jalousie, de l'envie. mais d'un désir de zèle, un zèle pur, un zèle d'en haut. Et puis il est dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Cela veut dire qu'il existe une ambition qui est saine, qui est légitime, qui entre dans le plan de Dieu. Il existe une ambition malsaine, là où est la jalousie justement, là où est l'orgueil. Mais il ne nous est pas interdit d'aspirer aux dons les meilleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire tout d'abord que nous devons réfléchir là où nous sommes, dans le cadre même de notre église locale, pour voir quels sont par exemple les dons qui vont le mieux exprimer l'amour dans nos relations les uns avec les autres. Il y a peut-être des lacunes dans le domaine de l'amour, parce que certains dons en particulier qui pourraient de manière excellente exprimer l'amour de Dieu parmi nous ne sont pas présents. Vous avez des églises locales dans lesquelles le ministère de visite n'est pas bien pratiqué, dans lesquelles les malades, les orphelins, les veuves, les personnes en difficulté ne sont pas bien accueillis. C'est un ministère d'amour qui peut changer les relations entre les uns et les autres dans l'église locale. Ensuite, les charismes, les dons les plus utiles pour édifier l'église. Continuellement, dans cet épître de Paul aux Corinthiens, Paul insiste sur cette dimension. Un charisme, un don, ce n'est pas un petit hocher dont l'enfant de 3 ans se sert pour taper sur la tête de son petit copain et l'assommer sur place. Le don est fait pour être mis au service des autres. Ce n'est pas un petit joujou. Il est fait pour édifier. Et le problème des croyants dans l'église de Corinthe, c'est qu'ils avaient une mauvaise conception des gens. Il voyait les dons comme un moyen de s'enorgueillir. L'utilité, le service commun, l'édification des autres, tout cela était quelque chose de totalement secondaire. Le résultat, c'est qu'il y avait, hélas, une quantité de tension entre les uns et les autres et un très mauvais climat. Avoir soin les uns des autres, instruire les autres, exhorter les autres, tout ceci est fortement présent dans 1 Corinthiens 12 à 14. Aspirez donc aux dons les plus utiles et édificateurs pour l'église locale où Dieu m'a placé. Je dois me poser la question. Dans mon église, est-ce qu'il y a véritablement des domaines où il y a des lacunes? Et au lieu de critiquer l'église locale à cause de ces lacunes, je vais dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que moi je n'ai pas quelque chose à faire pour aider l'église locale, pour l'édifier dans ce domaine-là? Aspirer aux dons les meilleurs, c'est réaliser qu'il y a des dons plus stratégiques que d'autres. Il y a une hiérarchie des dons dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous remarquez, on l'a dit hier, voyez l'ordre. Hein? Premièrement, deuxièmement et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie. Il y a tout d'abord une hiérarchie chronologique, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir un ministère prophétique dans une église qui n'existe pas. Donc il faut bien entendu des apôtres d'abord, et des apôtres dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire des missionnaires. Il faut qu'il y ait des hommes qui vraiment reçoivent de Dieu cette vocation pour être missionnaires, pionniers, et qui décident un jour, par la grâce de Dieu, et souvent en équipe, de fonder une nouvelle église. Ça commence par là. Il faut que quelqu'un ouvre la tranchée. Et c'est sur cette base-là que les autres services vont pouvoir avoir lieu une fois que l'Église peu à peu sera constituée. Et puis, il y a aussi une sorte de hiérarchie de valeurs, dans ce sens que, par exemple, un ministère de pionnier, de missionnaire, demande des capacités toutes particulières dans bien des domaines de la part de Dieu, parce que c'est un travail extrêmement difficile. Il y a de multiples dangers. Il faut une bonne connaissance des Écritures, une bonne connaissance du terrain. Il faut avoir le sens de l'offensive, de la stratégie. Pensez à tous ces apôtres qui ont travaillé au développement de l'Église de Jésus-Christ en Asie mineure. Nous pourrions prendre d'autres textes dans Éphésiens au chapitre 4, n'est-ce pas? Lorsqu'il est dit au verset 9, au 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses, Jésus-Christ. » Il a donné les uns comme apôtres en tête, à nouveau, c'est intéressant, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. » C'est un texte très important qui nous montre qu'il y a des dons stratégiques, des dons qui vraiment doivent nous préoccuper, des fonctions fondamentales au sein du corps de Christ, des organes vitaux. Il y a des organes vitaux. De même que dans notre corps, il y a des organes vitaux. Il y a des organes qui ont des fonctions plus importantes que d'autres, et si ces organes flanchent, ça provoque une multitude de problèmes. Notre foie, par exemple, est un organe qui a une valeur extraordinaire. Heureusement qu'il a des facultés de se régénérer, de repousser, fantastiques. Mais vous savez que quand notre foie flanche, c'est terrible. Ça pose des problèmes absolument énormes dans l'ensemble du corps, n'est-ce pas? Eh bien, il y a aussi des dons les plus stratégiques, hein, ce ministère prophétique, pasteur, docteur, évangélique, pionnier, évangéliste, etc. Et je pense que ça s'adresse en particulier à ceux qui sont les plus jeunes. Parce qu'il faut pouvoir, de préférence aussi, se former. C'est important d'avoir du temps devant soi, de bien se former. Et l'Église de Jésus-Christ manque aujourd'hui terriblement de ces ministères absolument essentiels. Et ça, c'est vraiment un défi à relever. Je le dis souvent quand il y a beaucoup de jeunes. Il faut prier aussi pour que dans nos églises, priez à Arles, hein, priez pour que dans votre communauté, Dieu travaille. Pour que non seulement des jeunes soient attirés à la connaissance de Christ, mais pour que Dieu appelle d'une manière toute particulière des jeunes à son service. Nous sommes tous au service du Seigneur. Mais il y a des besoins stratégiques pour la croissance de l'Église, des ministères importants pour le perfectionnement de l'Église locale, de manière à ce que les croyants ne soient pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mes amis, un ministère d'enseignement. Il y a trop peu d'enseignants dans notre beau pays de France. Trop peu. Et c'est un drame. Et aujourd'hui, c'est très important, à cause de tous les courants, de toutes les tendances, de tous ces mélanges qui sont en train de s'infiltrer dans l'Église de Jésus-Christ. Une saine ambition pour Dieu. Je pense à ces deux mendiants, deux enfants de Gavroche, comme on dit, qui se rencontrent dans la rue. Et l'un des deux avait une vieille carotte qu'il avait trouvée dans une poubelle. Et gentiment, il en offre la moitié à son camarade. Et à sa grande stupéfaction, son camarade la refuse. Et pendant qu'il était en train de se demander mais pourquoi son camarade pouvait refuser un tel cadeau, le camarade de sortir de dessous ses haillons une grosse orange bien pulpeuse qu'il avait également trouvée quelque part. Il ne voulait pas la carotte parce qu'il avait quelque chose de mieux. Avoir une saine ambition pour le Seigneur. Mais attention, avoir une saine ambition pour le Seigneur tout en acceptant aussi de prendre le chemin qui descend. Non pas en pensant que si le Seigneur nous appelle à un ministère particulier, d'importance stratégique, nous allons être des gloires. Nous allons pouvoir jouer la vedette. Un commentateur remarquable a dit un jour, je pensais auparavant que les dons de Dieu étaient sur des étagères placées les unes au-dessus des autres. Et que plus nous grandissions dans la vie chrétienne, plus il nous était facile de les atteindre. Je me rends compte maintenant que les dons de Dieu sont sur des étagères placées les unes au-dessous des autres. Et qu'il n'est pas besoin de s'élever, mais qu'il faut s'abaisser et descendre toujours de plus en plus bas pour obtenir ses meilleurs dons. Vous savez que la Bible, dans nos versions, utilise très souvent le terme « ministre ». Et je le disais avant-hier soir, ça fait trop pompeux. Parce que ça fait penser à ces grands commis de l'État. J'aimerais les appeler serviteurs, mais c'est parfois bien difficile, que sont les ministres de nos gouvernements. Et nous oublions si souvent que « ministre » vient d'un mot latin « minus ». Et « minus », ça veut dire le plus petit. Le plus petit. Le ministre est véritablement le serviteur des autres. Et non pas celui qui est revêtu d'honneur tout à fait particulier et d'un portefeuille qui est passablement épais. Ce n'est pas là la pensée de Dieu. Enfin, quatrièmement, et là, nous complétons tout cela, tout se tient. Quatrièmement, il importe que nous nous soumettions à la volonté souveraine de Dieu. Nous devons avoir du zèle, nous devons aspirer aux dons les meilleurs, avoir une saine ambition pour Dieu. Mais attention, il importe que nous nous soumettions à la volonté souveraine de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. » C'est dans le texte. Un petit peu plus bas, au verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Verset 24, « Même pensée, tandis que ceux qui sont descendants n'ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. » C'est Dieu qui a disposé le corps, n'est-ce pas ? Au verset 28, Dieu a établi, c'est Dieu. C'est Dieu qui établit parce que c'est Dieu qui a la vue d'ensemble. C'est Dieu qui est le stratège parfait. C'est Dieu qui connaît nos limites, nos capacités présentes et futures. Donc il importe que j'aspire avec un cœur droit, avec des motifs purs, mais c'est Dieu qui décide en dernier ressort. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter trois pièges. Trois pièges dans lesquels, généralement, nous sommes tombés lorsque nous avons lu les Écritures superficiellement sur la question des dons. Premier piège, celui de la tension, d'une recherche malsaine, tendue, charnelle, avec tous les risques de contrefaçon. Certains mettent tellement le paquet, pensant tellement que ça dépend de leurs prières, de leurs efforts physiques, nerveux, cérébraux, qu'ils finissent par recevoir des dons. Mais ils ne les reçoivent pas de Dieu. Ou bien ils les fabriquent du tréfonds de leur propre personnalité, qui a toutes sortes de mécanismes en réserve dans ce domaine. Ou bien, hélas, parfois, et alors c'est encore beaucoup plus grave, ils ont affaire au caricaturiste par excellence, qui est la puissance des ténèbres, capable aussi de faire des dons. Le deuxième piège est situé dans 1 Corinthiens 12, 14 et suivant. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps »,
ne serait-il pas du corps pour cela?
Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps »,
ne serait-elle pas du corps pour cela?
Mais si tout le corps était œil, où serait l'ouïe?
S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu.
Si tous étaient un seul membre, mais où serait le corps?
Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le complexe d'infériorité.
Ceux qui disent, mais moi, je ne vaux rien. Je suis un tout petit appendice de rien du tout. Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi?
On se sous-estime. On est frustré, on se déprécie, on fait de la fausse modestie, on se lamente. Mais je suis si défavorisé. Vous avez vu comment Dieu répond. Nous avons besoin les uns des autres. Et puis, tout de suite après, 1 Corinthiens 12, 21-24, alors il prend l'autre côté.
L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi.
Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ça s'appelle le complexe de supériorité. Ceux qui pensent qu'ils sont tellement importants et essentiels, les autres n'ont aucune valeur, regardez-moi. Vous n'êtes bon à rien. Je n'ai pas besoin de vous. Méprisez les autres en pensant qu'on est le nombril de l'église locale. Et là, j'aimerais simplement vous rappeler la parabole des talents. Nous en avons lu le début, hier, dans Matthieu 25, 14 à 30. Il est dit donc que le Seigneur remet des talents. Un à l'un, et ainsi de suite, n'est-ce pas, à chacun selon sa capacité. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, combien vaut un talent? Ça, c'est une grande question. Alors, j'ai creusé un peu la question, et je me suis rendu compte que celui qui n'avait reçu qu'un talent, et qui se plaignait en disant que le maître était dur, sévère, qu'il l'avait désavantagé, etc., il ne se rendait pas compte combien il était riche. Un talent équivaut à 6000 deniers. Et nous savons ce qu'est la valeur d'un denier, tout simplement, notamment parce que Jésus a raconté dans une parabole comment un bon patron payait ses ouvriers. Dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, il explique que le bon patron donne un denier à chacun de ses ouvriers, y compris donc en commençant par ceux qui ont travaillé dès le matin. C'est un bon patron. Et c'est vrai, on sait qu'à cette époque, quand quelqu'un recevait un denier après une journée de travail, il pouvait considérer qu'il avait largement gagné le SMIC. Alors je ne sais pas si vous réalisez. Si un talent c'est 6000 deniers, calculés même en années de notre calendrier, non pas du calendrier juif qui est un peu différent, cela représente 16 ans et demi de travail, à peu près, sans prendre un seul jour de congé. Vous vous rendez compte? Or, dans la législation juive, Israël était le champion du monde en matière de congé annuel. Vous vous rendez compte? Simplement avoir reçu un talent, c'était un cadeau absolument fantastique. Alors peut-être que ce bonhomme s'est dit, si le Seigneur me remet un talent, ça veut dire que pendant 16 ans et demi, je vais pouvoir, comme ça, je peux me reposer. J'ai gagné le gros lot, j'ai gagné le tiercé. Alors maintenant, je vais aller faire des belles balades, etc., etc., n'est-ce pas? Il n'a même pas fait ça. Puisqu'il a enterré, il a préféré l'enterrer. Donc, ne nous plaignons pas. Quand nous recevons un don, c'est déjà un cadeau extraordinaire, et d'autant plus extraordinaire que nous sommes appelés à le faire fructifier, qu'il va se multiplier, qu'il va engendrer des petits bébés. Hein. Ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Alors, simplement, et je voudrais terminer sur cet aspect, cinquièmement, au travail. C'est-à-dire que sur la base de ces différents aspects, connaissance, réaliser le caractère impératif, après la consécration, viser juste, se soumettre à la volonté souveraine de Dieu, au travail. Au travail. Peut-être, permettez-moi de revenir un instant sur ce quatrième point, soumission à la volonté souveraine de Dieu. J'aimerais avec précaution, mais néanmoins je crois quand même qu'il est sage de le faire, établir un parallèle entre la juste attitude que nous devons avoir dans le discernement des dons spirituels et celle que nous devons avoir face à la maladie et à la guérison. Votre famille locale, ici en Arles, traverse des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, en particulier parce qu'une maladie grave touche un jeune marié de surcroît, engagé dans l'église locale de surcroît, je vais vous dire quelque chose. Je vous le dis très affectueusement, mais je crois que je dois vous le dire quand même. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'église locale, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. J'aimerais simplement souligner qu'un certain nombre d'églises locales se sont un jour divisées à cause de telles situations. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toujours su, dans l'église locale, avoir la meilleure attitude devant Dieu face à la maladie qui frappe de cette manière. Je peux vous dire que j'ai vu de mes propres yeux, après avoir visité une communauté qui était dans la même situation que vous, je l'ai vu se diviser. Et j'en connais d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne peux bien entendu que vous encourager à prier et respectueusement à demander à Dieu la guérison de David. Mais j'ajoute aussitôt quelque chose d'autre. C'est que vous ne pouvez pas l'imposer à Dieu. C'est que Dieu reste souverain. Et que si jamais vous vous installez dans une sorte de ce que j'appelle méthode couée, c'est-à-dire d'autosuggestion, en train d'affirmer continuellement que Dieu va guérir David, si jamais il n'était pas dans la volonté de Dieu de le guérir, mes amis, certains d'entre vous risque de faire de terribles dépressions, risque de devenir des chrétiens rétrogrades et risque de couvrir le nom de Jésus d'opprobre parce qu'ils auront mal réagi dans une situation de souffrance. Il nous faut de l'équilibre dans ce domaine et à la fois dire de tout notre cœur, Seigneur, et compassion, David n'a aucun mérite pour être guéri. N'alignez pas un seul mérite pour David. L'homme n'a pas droit à la guérison. La guérison est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité, démérité. Nous n'avons le droit qu'à la grâce de Dieu. C'est simplement la miséricorde de Dieu qui peut intervenir dans ce domaine. Mais en même temps, dites Seigneur, si dans ta souveraineté, ton plan, le meilleur pour David et pour nous, même pour nous ses proches, était autre, alors s'il te plaît, prépare nos cœurs. dispose nos mentalités, nos esprits, et prépare-le, de manière à ce que, quoi qu'il arrive, ta gloire se manifeste dans cette situation. Il y a une vingtaine d'années en arrière, je présidais une pastorale d'église pour toute la Bretagne. Et mon ministère m'a amené à m'occuper de situations parfois difficiles. Et je me souviendrai toute ma vie, ce moment passé au chevet d'un serviteur de Dieu, ancien international de football, dans l'équipe nationale suisse, que Dieu avait appelé, après l'avoir sauvé, à quitter cette équipe nationale suisse pour le servir. Il est arrivé en Bretagne. Il a servi pendant quelques années avec un très beau ministère. Et puis, à l'âge de 39 ans, Dieu a permis qu'il soit sur un lit d'hôpital avec une tumeur au cerveau et une tumeur maligne, pratiquement inopérable. Et j'ai vécu là certains de mes moments les plus douloureux dans mon ministère. Tout simplement parce qu'autour de ce serviteur de Dieu se trouvait un certain nombre de personnes, de croyants, qui croyaient penser juste, mais qui voulaient imposer à Dieu une guérison. Et qui ont insisté, fortement insisté. Et puis Dieu a permis que je sois au chevet de cet ami lorsqu'il est parti auprès du Seigneur. Et la charge m'a incombé d'aller prévenir celle qui venait de devenir sa veuve et d'autres qui priaient tout près et dont certains continuaient à réclamer coûte que coûte la guérison. Mes amis, je ne vous parle pas des conséquences de cette mauvaise approche de la maladie et de la guérison. Alors priez, mais priez en réalisant en face de qui vous êtes, d'un Dieu qui vous aime passionnément, qui souffre peut-être encore beaucoup plus de vous que vous dans cette situation. Ce n'est pas volontiers que Dieu humilie les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers qu'il les place dans des situations de souffrance. Il y a un mystère dans ces situations, des choses qui nous échappent, mais qui n'échappent pas à Dieu, n'est-ce pas? Si vous avez une juste attitude, si le Saint-Esprit peut contrôler votre personne dans la prière, alors cette maladie, quelle que soit son issue, servira à la gloire de Dieu, à l'édification de l'Église, et pourra toucher le cœur de personnes autour de vous par la beauté de votre témoignage. Je tenais à vous le dire. Parce que dans ces moments-là, on est tellement tenté de déraper à cause de notre affection, nos sentiments. Il y a tant de choses qui se passent en nous, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez le sens de mon explication. Alors je termine. Au travail, sur la base de ces quatre premiers points. Je veux être disponible. Cela veut dire que je ne veux pas attendre les sollicitations suppliantes des anciens. Et je veux aller, pourquoi pas, vers tel ou tel responsable de l'Église pour lui dire, écoute, je mets mes mains, mes pieds, ma voiture, ma tête, tout à ton, au service du Seigneur, dans l'Église, qu'est-ce que je peux faire? Je pense à ce serviteur de Dieu à plein temps qui partait tous les lundis matins en voiture vers une destination inconnue. C'est une histoire vraie. Et comme ça se passait vraiment tous les matins et qu'il ne voulait dire à personne ce qu'il faisait, un jour, un des anciens de l'église locale a osé lui poser la question, « Mais qu'est-ce que tu vas faire le lundi matin ?» Alors ce responsable a dit, « Bien écoute, si tu veux, lundi prochain, je t'emmène avec moi et tu sauras. » Imaginez l'impatience de connaître, de savoir chez cet ancien. Alors, le lundi matin, ils se sont installés tous deux dans la voiture et la voiture est partie, a fait quelques kilomètres et à quelques kilomètres de là, pas très loin de la ville, il y a un passage à niveau qui s'est fermé peu avant que la voiture arrive.
Le train est passé, les barrières se sont levées, la voiture a démarré, a passé le passage à niveau, et puis une centaine de mètres plus loin, où il était possible de faire demi-tour, le responsable a fait faire demi-tour à sa voiture et ils sont rentrés à la maison. Alors l'ancien a dit, mais écoute, frère, c'est ce que tu fais tous les lundis matins ? Oui. Non, mais franchement, tu vas jusqu'au passage à niveau, tu passes le passage à niveau, et puis tu reviens, tu mets la voiture, c'est tout ce que tu fais ? Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça tous les matins ? Et le serviteur de répondre simplement, mais tu ne peux pas savoir combien il m'est agréable de regarder quelque chose qui avance sans avoir à le pousser moi-même. Et regardez le train. Et ça le détendait. De voir le train passer sans avoir à le pousser lui-même. Vous comprenez ce qu'il voulait dire ? Il en avait assez d'être dans une église locale où il fallait toujours, toujours solliciter, pousser les gens, les rappeler, parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, commencez par les tâches les plus humbles, par les tâches les plus simples. Servez dans les choses qui sont à votre portée. Quand Ruth est arrivée en Israël, quel a été son premier boulot, vous savez ? Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire en Israël ? Est-ce qu'elle a conduit un tracteur avec une faucheuse, lieuse, batteuse et tout le reste ? Elle a commencé par glaner. Glaner. C'est comme ça qu'elle a été comblée. Elle a commencé par glaner. Trop souvent aujourd'hui, on ne veut pas glaner. C'est sûr que c'est pénible de glaner. Ce n'est pas la tâche la plus extraordinaire qui soit. Mais dans nos vies d'église, au service du Seigneur, il importe que nous acceptions de glaner. Lorsque la cathédrale de Milan a été inaugurée, il y avait dans le vaste rassemblement un enfant qui subitement a déclaré à qui voulait bien l'entendre, « J'ai aidé à construire ça !» Et de son doigt, il a fixé la cathédrale. Alors il y avait là, tout près, un immense garde en grand uniforme, qui l'a regardé de travers et qui lui a dit, « Quoi ? Montre-moi ce que tu as fait !» Et le petit garçon de dire, « Eh ben, j'ai apporté chaque jour les repas de papa alors qu'il travaillait là-bas. » Eh oui, chacun a sa place. Vous voulez développer un don spirituel, prenez le balai et balayez l'église locale. Mettez des fleurs. Nous avions dans l'église locale une membre qui avait derrière elle un passé terrifiant, d'occultisme, de spiritisme, carte d'ancienne célèbre qui venait venir vers elle toutes les huiles de Paris. Puis elle a accepté Christ, elle a été délivrée, elle a brûlé des sommes monumentales d'une bibliothèque spirite. Et puis elle a désiré vraiment mettre ses dons au service du Seigneur. Et vous savez ce qu'elle est devenue ? À part toute l'évangélisation qu'elle faisait dans son travail, elle est devenue la fleuriste de l'Église. Pendant tout notre ministère, nous n'avons jamais eu une Église aussi accueillante. Au niveau de l'entretien des plantes vertes. Oh, elle faisait ça avec un amour. Nous avions un plaisir à nous réunir dans cette église locale. Parce qu'elle rendait ce lieu accueillant. Décorer l'église, préparer le journal de l'église ou les affichettes quand quelqu'un est de passage, la bibliothèque, la cassettothèque, les colis missionnaires, l'aide au travail parmi les enfants, tous les travaux matériels, distribution de traités, visite aux vieillards et aux malades. Il y a tant de choses à faire. Tant de choses qui vont vous permettre de découvrir vos dons. Vous avez une école du dimanche. Il y a peut-être un moniteur, un responsable qui travaille là depuis des années. Et puis vous dites, ça c'est pas pour moi. Mes amis, pourquoi vous n'iriez pas un dimanche, en demandant l'autorisation au responsable, pourquoi vous n'iriez pas vous joindre à lui ? Non pas pour donner l'enseignement, même pas peut-être pour diriger un cantique, mais pour vous asseoir au milieu des enfants et voir comment le responsable de l'école du dimanche pratique. Comment il fait ? Vous savez que quantité de dons dans le domaine de l'enseignement aux enfants sont nés comme ça. Parce qu'un aîné qui avait été doué par le Seigneur, qui avait appris avec le Seigneur, a accepté de prendre un plus jeune qui s'est mis à son service. Alors au début, on s'est mis au milieu des enfants. Ça a permis un peu plus de discipline. Et puis un peu plus tard, on a peut-être manié les aides visuelles sur le flanellographe. Et puis un jour, peut-être parce qu'on savait gratouiller la guitare, on a un petit peu aidé à chanter les cantiques. Et puis un jour, on a accepté de donner l'introduction. Et puis le jour est arrivé où on a pu donner le message entier aux enfants. Et le Seigneur a embrasé nos cœurs d'un amour extraordinaire pour les enfants. Combien de dons se sont développés ainsi? Vous n'avez jamais tenu un stand au marché. Et il se trouve que le samedi matin, vous ne travaillez pas. Mes amis, peut-être que ça vous apparaît difficile. Personne ne vous oblige à tenir le stand. Mais pourquoi est-ce que vous ne décideriez pas de goûter au stand biblique? Et de dire, samedi prochain, de 9h à 10h ou de 10h à midi, puisque là j'ai une tranche facile pour moi, je vais tenir compagnie au frère. Je vais voir comment il fait. Je vais prier pour lui. Je vais peut-être essayer quand même de donner un ou deux traités. Et peut-être que je vais découvrir que le Seigneur sait se servir de moi. Et peut-être que même celui qui tient le stand en ce moment, il va rougir de confusion en voyant comment le Seigneur est capable de m'utiliser. Combien de dons sont nés de cette manière? Dieu confie de grandes choses lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses. Et là, j'aimerais, je termine, parce qu'il faut que nous vivions la fin du culte sans être bousculés. J'aimerais dans ce domaine dire ceci. Certains pensent que les dons spirituels n'ont rien à voir avec nos capacités matérielles, nos capacités humaines. Je ne le crois pas. Je crois qu'il n'y a pas, je ne vois pas cela dans les Écritures, je ne crois pas qu'il y ait des indications dans les Écritures qu'il faille obligatoirement faire une discrimination entre les dons naturels que Dieu nous fait et les dons surnaturels, entre les dons ordinaires et les dons miraculeux. Vous n'avez pas cette espèce de démarcation trop facile. Et c'est important ceci, parce que si elle n'existe pas dans les Écritures, c'est pour que nous n'attendions pas passivement qu'un don nous tombe du ciel. Comprenez, si les dons sont simplement miraculeux et qu'ils n'ont rien à faire avec notre histoire, avec notre passé, avec notre éducation, avec notre personnalité, avec les études que nous avons peut-être faites, etc., n'est-ce pas, avec nos dispositions qui sont des cadeaux de Dieu. Mes amis, c'est facile de dire, comment voulez-vous que je travaille tant que Dieu ne me donne pas un don? J'attends. Puis le jour où ça va tomber, je vais travailler. Vous comprenez? Alors pour éviter ceci, la Bible est beaucoup plus généreuse. Et nous devons nous souvenir que c'est le même Dieu qui règne sur la création et sur la nouvelle création. Dieu sait de toute éternité, donc avant notre naissance, la vie qui nous attend. Et il nous prépare, avant notre conversion à Jésus-Christ déjà, en vue de l'exercice des dons spirituels. Je crois que ça c'est important. Et Dieu peut effectivement, dans sa grâce, ajouter à ces dons qu'il va faire passer par le laminoir de la croix. C'est ça, n'est-ce pas? Un don spirituel peut être un don naturel ou par capacité, par apprentissage, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'il est passé par le laminoir de la croix. Il a été purifié, il a été mis à l'épreuve. Le Seigneur a travaillé dans la vie de celui qui l'exerce pour qu'il n'en tire aucune gloire. Et puis Dieu, dans sa grâce, effectivement, peut ajouter des dons de caractère particulièrement miraculeux qui n'ont rien à faire avec notre passé, ceci dans sa souveraineté. Mais n'attendons pas comme ça que ça tombe du ciel. Je ne veux pas dissocier dans ma vie l'inspiration de la transpiration. Hein? Travaillez dans tous les domaines dans lesquels Dieu vous a équipés. Et s'il plaît à Dieu, il sera manifestement capable de vous équiper encore d'autres dimensions pour les besoins de son corps. Faites-le avec humilité, avec modestie, avec joie, avec reconnaissance, avec fidélité, avec une grande bonté, parce que nous ne serons pas jugés au tribunal de Christ sur notre succès. Dieu nous dira, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, merci. Merci de tout cœur de ce qu'il te plaît de nous équiper pour un beau service dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à regarder nos vies pour voir tout ce que tu nous as donné et que nous pouvons mettre à la disposition de ton corps. Merci pour les dispositions que tu nous as données avant même que nous soyons convertis. Merci pour certaines facilités. Merci pour ce que nous avons appris à l'école, dans nos stages, pour exercer notre vie professionnelle. Tu vois, Seigneur, tout est cadeau. Nous t'en bénissons et nous te demandons vraiment de nous aider à être disponibles et à mettre tout cela sur l'autel. Et puis si tu veux, Seigneur, y ajouter quelque chose qui n'ait aucun rapport avec notre passé, tu sais le faire parce que tu connais les besoins de ton peuple. Seigneur, bénis notamment cette communauté locale ici en Arles. Tu vois ses besoins, tu vois ses cris vers toi. Accorde-lui la grâce de trouver devant toi la juste attitude dans cette situation difficile. Bénis cette communauté, accorde-lui tout l'équilibre dont elle a besoin. Merci, parce que tu es le Dieu de toute consolation et parce que tout ce qui nous apparaît mystérieux pour toi n'est pas un mystère. Nous te bénissons de tout notre cœur en Jésus-Christ. Amen. Amen. L'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Seigneur, pourquoi tu lui as donné ce don? Pourquoi, moi, tu m'as si peu gâté? Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, il importe que nous ayons des motivations pures dans la prière. Non pas des motivations qui viennent de la jalousie, de l'envie, mais d'un désir de zèle. Un zèle pur, un zèle d'en haut. Et puis, il est dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Cela veut dire qu'il existe une ambition qui est saine, qui est légitime, qui entre dans le plan de Dieu. Il existe une ambition malsaine, là où est la jalousie justement, là où est l'orgueil. Mais il ne nous est pas interdit d'aspirer aux dons les meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, cela veut dire tout d'abord que nous devons réfléchir là où nous sommes, dans le cadre même de notre église locale, pour voir quels sont par exemple les dons qui vont le mieux exprimer l'amour dans nos relations les uns avec les autres. Il y a peut-être des lacunes dans le domaine de l'amour parce que certains dons en particulier qui pourraient de manière excellente exprimer l'amour de Dieu parmi nous ne sont pas présents. Vous avez des églises locales dans lesquelles le ministère de visite n'est pas bien pratiqué, dans lesquelles les malades, les orphelins, les veuves, les personnes en difficulté ne sont pas bien accueillis. C'est un ministère d'amour qui peut changer les relations entre les uns et les autres dans l'église locale. Ensuite, les charismes, les dons les plus utiles pour édifier l'église. Continuellement, dans cet épître de Paul aux Corinthiens, Paul insiste sur cette dimension. Un charisme, un don, ce n'est pas un petit hocher dont l'enfant de 3 ans se sert pour taper sur la tête de son petit copain et l'assommer sur place. Le don est fait pour être mis au service des autres. Ce n'est pas un petit joujou. Il est fait pour édifier Et le problème des croyants dans l'église de Corinthe, c'est qu'ils avaient une mauvaise conception des gens. Ils voyaient les dons comme un moyen de s'enorgueillir. L'utilité, le service commun, l'édification des autres, tout cela était quelque chose de totalement secondaire. Le résultat, c'est qu'il y avait, hélas, une quantité de tension entre les uns et les autres et un très mauvais climat. Avoir soin les uns des autres, instruire les autres, exhorter les autres, tout ceci est fortement présent dans 1 Corinthiens 12 à 14. Aspirez donc aux dons les plus utiles et édificateurs pour l'église locale où Dieu m'a placé. Je dois me poser la question. Dans mon église, est-ce qu'il y a véritablement des domaines où il y a des lacunes? Et au lieu de critiquer l'église locale à cause de ces lacunes, je vais dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que moi je n'ai pas quelque chose à faire pour aider l'église locale, pour l'édifier dans ce domaine-là? Aspirer aux dons les meilleurs, c'est aussi réaliser qu'il y a des dons plus stratégiques que d'autres. Il y a une hiérarchie des dons dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous remarquez, on l'a dit hier, voyez l'ordre, hein? Premièrement, deuxièmement, et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie. Il y a tout d'abord une hiérarchie chronologique, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir un ministère prophétique dans une église qui n'existe pas. Donc il faut bien entendu des apôtres d'abord, et des apôtres dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire des missionnaires. Il faut qu'il y ait des hommes qui vraiment reçoivent de Dieu cette vocation pour être missionnaires, pionniers, et qui décident un jour, par la grâce de Dieu, et souvent en équipe, de fonder une nouvelle église. Ça commence par là. Il faut que quelqu'un ouvre la tranchée. Et c'est sur cette base-là que les autres services vont pouvoir avoir lieu une fois que l'Église peu à peu sera constituée. Et puis, il y a aussi une sorte de hiérarchie de valeurs, dans ce sens que, par exemple, un ministère de pionnier, de missionnaire, demande des capacités toutes particulières dans bien des domaines de la part de Dieu, parce que c'est un travail extrêmement difficile. Il y a de multiples dangers. Il faut une bonne connaissance des Écritures, une bonne connaissance du terrain. Il faut avoir le sens de l'offensive, de la stratégie. Pensez à tous ces apôtres qui ont travaillé au développement de l'Église de Jésus-Christ en Asie mineure. Nous pourrions prendre d'autres textes dans Éphésiens au chapitre 4, n'est-ce pas? Lorsqu'il est dit au verset 9, au 10... Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses, Jésus-Christ. Il a donné les uns comme apôtres en tête, à nouveau, c'est intéressant, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. C'est un texte très important qui nous montre qu'il y a des dons stratégiques. Des dons qui vraiment doivent nous préoccuper des fonctions fondamentales au sein du corps de Christ, des organes vitaux. Il y a des organes vitaux. De même que dans notre corps, il y a des organes vitaux. Il y a des organes qui ont des fonctions plus importantes que d'autres, et si ces organes flanchent, ça provoque une multitude de problèmes. Notre foie, par exemple, est un organe qui a une valeur extraordinaire. Heureusement qu'il a des facultés de se régénérer, de repousser, fantastiques. Mais vous savez que quand notre foie flanche, c'est terrible. ça pose des problèmes absolument énormes dans l'ensemble du corps, n'est-ce pas? Eh bien, il y a aussi des dons les plus stratégiques, hein, ce ministère prophétique, pasteur, docteur, évangélique, pionnier, évangéliste, etc. Et je pense que ça s'adresse en particulier à ceux qui sont les plus jeunes. Parce qu'il faut pouvoir, de préférence aussi, se former. C'est important d'avoir du temps devant soi, de bien se former. Et l'Église de Jésus-Christ manque aujourd'hui terriblement de ces ministères absolument essentiels. Et ça, c'est vraiment un défi à relever. Je le dis souvent quand il y a beaucoup de jeunes. Il faut prier aussi pour que dans nos églises, priez à Arles, hein, priez pour que dans votre communauté, Dieu travaille. Pour que non seulement des jeunes soient attirés à la connaissance de Christ, mais pour que Dieu appelle d'une manière toute particulière des jeunes à son service. Nous sommes tous au service du Seigneur. Mais il y a des besoins stratégiques pour la croissance de l'Église, des ministères importants pour le perfectionnement de l'Église locale, de manière à ce que les croyants ne soient pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mes amis, un ministère d'enseignement. Il y a trop peu d'enseignants dans notre beau pays de France. Mais trop peu. Et c'est un drame. Et aujourd'hui, c'est très important, à cause de tous les courants, de toutes les tendances, de tous ces mélanges qui sont en train de s'infiltrer dans l'Église de Jésus-Christ. Une saine ambition pour Dieu. Je pense à ces deux mendiants, deux enfants de Gavroche, comme on dit, qui se rencontrent dans la rue. Et l'un des deux avait une vieille carotte qu'il avait trouvée dans une poubelle. Et gentiment, il en offre la moitié à son camarade. Et à sa grande stupéfaction, son camarade la refuse. Et pendant qu'il était en train de se demander mais pourquoi son camarade pouvait refuser un tel cadeau, le camarade de sortir de dessous ses haillons une grosse orange bien pulpeuse qu'il avait également trouvée quelque part. Il ne voulait pas la carotte parce qu'il avait quelque chose de mieux. Avoir une saine ambition pour le Seigneur. Mais attention, avoir une saine ambition pour le Seigneur tout en acceptant aussi de prendre le chemin qui descend. Non pas en pensant que si le Seigneur nous appelle à un ministère particulier, d'importance stratégique, nous allons être des gloires. Nous allons pouvoir jouer la vedette. Un commentateur remarquable a dit un jour, « Je pensais auparavant que les dons de Dieu étaient sur des étagères placées les unes au-dessus des autres. Et que plus nous grandissions dans la vie chrétienne, plus il nous était facile de les atteindre. Je me rends compte maintenant que les dons de Dieu sont sur des étagères placées les unes au-dessous des autres et qu'il n'est pas besoin de s'élever, mais qu'il faut s'abaisser et descendre toujours de plus en plus bas pour obtenir ses meilleurs dons. » Vous savez que la Bible, dans nos versions, utilise très souvent le terme « ministre ». Et je le disais avant-hier soir, ça fait trop pompeux. Parce que ça fait penser à ces grands commis de l'État, j'aimerais les appeler serviteurs, mais c'est parfois bien difficile, que sont les ministres de nos gouvernements. Et nous oublions si souvent que « ministre » vient d'un mot latin, « minus ». Et « minus », ça veut dire le plus petit. Le plus petit. Le ministre est véritablement le serviteur des autres, et non pas celui qui est revêtu d'honneur tout à fait particulier et d'un portefeuille qui est passablement épais. Ce n'est pas là la pensée de Dieu. Enfin, quatrièmement, et là, nous complétons tout cela, tout se tient. Quatrièmement, il importe que nous nous soumettions à la volonté souveraine de Dieu. Nous devons avoir du zèle, nous devons aspirer aux dons les meilleurs, avoir une saine ambition pour Dieu. Mais attention il importe que nous nous soumettions à la volonté souveraine de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. » C'est dans le texte. Un petit peu plus bas, au verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Verset 24, « Même pensée, tandis que ceux qui sont descendants n'ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. » C'est Dieu qui a disposé le corps, n'est-ce pas? Au verset 28, « Dieu a établi, c'est Dieu. » C'est Dieu qui établit parce que c'est Dieu qui a la vue d'ensemble. C'est Dieu qui est le stratège parfait. C'est Dieu qui connaît nos limites, nos capacités présentes et futures. Donc il importe que j'aspire avec un cœur droit, avec des motifs purs, mais c'est Dieu qui décide en dernier ressort. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter trois pièges. Trois pièges dans lesquels, généralement, nous sommes tombés lorsque nous avons lu les Écritures superficiellement sur la question des dons. Premier piège, celui de la tension, d'une recherche malsaine, tendue, charnelle, avec tous les risques de contrefaçon. Certains mettent tellement le paquet, pensant tellement que ça dépend de leurs prières, de leurs efforts physiques, nerveux, cérébraux, qu'ils finissent par recevoir des dons. Mais ils ne les reçoivent pas de Dieu. Ou bien ils les fabriquent du tréfonds de leur propre personnalité, qui a toutes sortes de mécanismes en réserve dans ce domaine. Ou bien, hélas, parfois, et alors c'est encore beaucoup plus grave, ils ont affaire au caricaturiste par excellence, qui est la puissance des ténèbres, capable aussi de faire des dons. Le deuxième piège est situé dans 1 Corinthiens 12, 14 et suivant. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Mais si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, mais où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le complexe d'infériorité. Ceux qui disent, mais moi, je ne vaux rien. Je suis un tout petit appendice de rien du tout. Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? On se sous-estime. On est frustré, on se déprécie, on fait de la fausse modestie, on se lamente, mais je suis si défavorisé. Alors vous avez vu comment Dieu répond. Nous avons besoin les uns des autres. Et puis tout de suite après, 1 Corinthiens 12, 21-24, alors il prend l'autre côté. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ça s'appelle le complexe de supériorité. Ceux qui pensent qu'ils sont tellement importants et essentiels, les autres n'ont aucune valeur, regardez-moi. Vous n'êtes bon à rien. Je n'ai pas besoin de vous. Méprisez les autres en pensant que On est le nombril de l'église locale. Et là, j'aimerais simplement vous rappeler la parabole des talents. Nous en avons lu le début, hier, dans Matthieu 25, 14 à 30. Il est dit donc que le Seigneur remet des talents. Un à l'un, et ainsi de suite, n'est-ce pas, à chacun selon sa capacité. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, combien vaut un talent? Ça, c'est une grande question. Alors, j'ai creusé un peu la question, et je me suis rendu compte que celui qui n'avait reçu qu'un talent, et qui se plaignait en disant que le maître était dur, sévère, qu'il l'avait désavantagé, etc., il ne se rendait pas compte combien il était riche. Un talent équivaut à 6000 deniers. Et nous savons ce qu'est la valeur d'un denier, tout simplement, notamment parce que Jésus a raconté dans une parabole comment un bon patron payait ses ouvriers. Dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, il explique que le bon patron donne un denier à chacun de ses ouvriers, y compris donc en commençant par ceux qui ont travaillé dès le matin. C'est un bon patron. Et c'est vrai, on sait qu'à cette époque, quand quelqu'un recevait un denier après une journée de travail, il pouvait considérer qu'il avait largement gagné le SMIC. Alors je ne sais pas si vous réalisez, si un talent c'est 6000 deniers, calculés même en années de notre calendrier, non pas du calendrier juif qui est un peu différent, cela représente 16 ans et demi de travail, à peu près, sans prendre un seul jour de congé. Vous vous rendez compte? Or, dans la législation juive, Israël était le champion du monde en matière de congé annuel. Vous vous rendez compte? Simplement avoir reçu un talent, c'était un cadeau absolument fantastique. Alors peut-être que ce bonhomme s'est dit, si le Seigneur me remet un talent, ça veut dire que pendant 16 ans et demi, je vais pouvoir, hein, comme ça, je peux me reposer. J'ai gagné le gros lot, hein, j'ai gagné le tiercé. Hein. Alors maintenant, je vais aller faire des belles balades, etc., etc., n'est-ce pas? Il n'a même pas fait ça. Puisqu'il a enterré, hein. Il a préféré l'enterrer. Donc, ne nous plaignons pas. Quand nous recevons un don, c'est déjà un cadeau extraordinaire, et d'autant plus extraordinaire que nous sommes appelés à le faire fructifier. Qu'il va se multiplier, qu'il va engendrer des petits bébés. Hein. Ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Alors, simplement, et je voudrais terminer sur cet aspect, cinquièmement, au travail. C'est-à-dire que sur la base de ces différents aspects, connaissance, réaliser le caractère impératif, après la consécration, viser juste, se soumettre à la volonté souveraine de Dieu, au travail. Au travail. Peut-être, permettez-moi de revenir un instant sur ce quatrième point, soumission à la volonté souveraine de Dieu. J'aimerais avec précaution, mais néanmoins je crois quand même qu'il est sage de le faire, établir un parallèle entre la juste attitude que nous devons avoir dans le discernement des dons spirituels et celle que nous devons avoir face à la maladie et à la guérison. Votre famille locale, ici en Arles, traverse des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, en particulier parce qu'une maladie grave touche un jeune marié de surcroît, engagé dans l'église locale de surcroît. Je vais vous dire quelque chose. Je vous le dis très affectueusement, mais je crois que je dois vous le dire quand même. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'église locale, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. J'aimerais simplement souligner qu'un certain nombre d'églises locales se sont un jour divisées à cause de telles situations. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toujours su, dans l'église locale, avoir la meilleure attitude devant Dieu face à la maladie qui frappe de cette manière. Je peux vous dire que j'ai vu de mes propres yeux, après avoir visité une communauté qui était dans la même situation que vous, je l'ai vu se diviser. Et j'en connais d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne peux bien entendu que vous encourager à prier et respectueusement à demander à Dieu la guérison de David. Mais j'ajoute aussitôt quelque chose d'autre. C'est que vous ne pouvez pas l'imposer à Dieu. C'est que Dieu reste souverain. Et que si jamais vous vous installez dans une sorte de ce que j'appelle méthode couée, c'est-à-dire d'autosuggestion, en train d'affirmer continuellement que Dieu va guérir David, si jamais il n'était pas dans la volonté de Dieu de le guérir, mes amis, certains d'entre vous risque de faire de terribles dépressions, risque de devenir des chrétiens rétrogrades et risque de couvrir le nom de Jésus d'opprobre parce qu'ils auront mal réagi dans une situation de souffrance. Il nous faut de l'équilibre dans ce domaine et à la fois dire de tout notre cœur, Seigneur, et compassion, David n'a aucun mérite pour être guéri. N'alignez pas un seul mérite pour David. L'homme n'a pas droit à la guérison. La guérison est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité, démérité. Nous n'avons le droit qu'à la grâce de Dieu. C'est simplement la miséricorde de Dieu qui peut intervenir dans ce domaine. Mais en même temps, dites Seigneur, si dans ta souveraineté, ton plan, le meilleur pour David et pour nous, même pour nous ses proches, étaient autres, alors s'il te plaît, prépare nos cœurs, dispose nos mentalités, nos esprits et prépare-le de manière à ce que quoi qu'il arrive, ta gloire se manifeste dans cette situation.